Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Alors, Mathieu, tu dis que les violences qui ont lieu actuellement en France sont causées par l'extrême gauche.
En fait, je dirais l'ultra-gauche, si tu me permets cette nuance de terme. Parce que je dirais, quand je dis ultra-gauche, c'est que c'est une tradition particulière à gauche qui revendique l'usage de la violence. Et pour qui la violence? Alors que quand on dit extrême-gauche, récemment, c'est sur le plan des idées. On peut trouver quelquefois des communistes qui jouent le jeu parlementaire, qui acceptent la vie parlementaire. Là, on est devant des milices qui revendique, et c'est ce qui est important dans ce qui se passe en France en ce moment, pour qui pense que la France est un peu un laboratoire pour le reste de l'Occident. C'est qu'une lecture rapide de la crise des retraites dont on parle de temps en temps, toi et moi, peut amener à croire que c'est le peuple en colère qu'on ne l'ait pas entendu décide d'user de violence pour se faire entendre. Mais c'est une narration des événements qui est terriblement inexacte. Ce qui se passe, en effet, c'est que les milices d'ultra-gauche, les antifas, tous ces groupes-là, qui jusqu'ici ne croyaient pas pouvoir récupérer la situation, là, ils décident de profiter de vraies tensions sociales en cherchant à les extrémiser, en cherchant à les radicaliser, en poussant pour une montée aux extrêmes. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils cherchent justement à faire en sorte que ces tensions deviennent violentes. De quelle manière? Dans certains cas, en faisant du sabotage, ça c'est la tendance écolo, mais plus fondamentalement, en attaquant les policiers, comme on l'a vu il y a quelques jours à Sainte-Soline, dans un débat sur qui ne touchait pas, dans ce cas-là, aux retraites, qui touchait à la question environnementale, où il y a eu une bataille rangée entre des milices d'ultra-gauche et les services policiers, les forces de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a trois tendances aujourd'hui, et il y en a plus que ça dans les faits, mais trois grandes tendances. Il y a les antifas, il y a les écolos radicaux, et puis il y a la mouvance trans radicale. Finalement, tous ces gens-là ont été finalement annexés par les antifas, il faut bien le dire. Mais c'est quoi la logique? Dans leur esprit, eh bien, comme je veux dire, pour eux, le fascisme commence à droite, centre-gauche. Et dès lors, il faut, pour être capable de vaincre le fascisme, il faut être capable de taper sur tout ce qui en serait à l'origine. Donc, dans leur esprit, c'est ce qu'ils appellent l'hétéropatriarcat, la nation, le conservatisme, finalement. Et il faut exercer une terreur du quotidien contre les gens qui pensent pas comme eux. Donc, interdire des conférences. Donc, détruire du matériel agricole. Donc, crever les pneus des SUV. Donc, attaquer les policiers. En créant un environnement qui serait tel où le prix à payer pour afficher des idées conservatrices serait tellement élevé que plus personne n'oserait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont des milices paramilitaires très entraînés qui arrivent armés dans ces événements-là et qui n'hésitent pas, je le redis, à faire un usage de la violence. Donc, la violence, chez eux, c'est pas une dérive, c'est une conviction. Mais quand on a tout ça à l'esprit, on regarde ce qui se passe en France, puis on comprend mieux le rôle de ces milices antifas qui frappent un peu partout dans le monde occidental, mais qu'on n'ose pas donner la plupart du temps.
Écoute, il y a Robert Badinter. Robert Badinter, c'est lui qui a mené le combat contre la peine de mort, qui s'est élevé dans une émission de télévision, qui a dit que c'est épouvantable qu'on se promène, parce que ça a l'air qu'il y a des manifestants qui se promènent avec comme la tête de Macron sur un pic.
Oui, bien sûr.
Et écoute, je sais pas si je vais pouvoir faire entendre, je fais entendre un extrait des propos de M. Badinter. Écoute ça.
Rien n'excuse ce degré de violence, non pas physique encore, mais verbal. Rien. La démonstration, la représentation d'une tête au bout d'une pique, qui n'est rien d'autre que la guillotine, ensuite, la continuité, est pour moi, à mes yeux, absolument, totalement condamnable. On ne peut pas admettre, dans la République française, dont je rappelle la devise, on ne peut pas admettre que quelque homme politique que ce soit, quelque femme politique que ce soit, on promène sa tête au bout d'une pique avec ce que cela signifie. Ce n'est pas admissible.
Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, je pense que il a tout à fait raison de dire que c'est inacceptable. À l'échelle de l'histoire, cela dit, je me permettrais de faire une correction. C'est que la République française est aussi née dans le sang. Faut jamais l'oublier, ça. C'est, pourquoi la France a un tel rapport, on pourrait dire, ambivalent à la violence politique? c'est que la République est née dans des circonstances particulièrement violentes. Et moi, quand on me demande, puisqu'on m'a posé la question récemment, oui, mais est-ce que, par exemple, les gens de la France insoumise, hein, l'aile, dont l'aile radicale, la France insoumise, il y a, par exemple, un député Thomas Porte qui a fait rouler la... à la manière d'un ballon, la tête d'un ministre, celui qui porte la réforme des retraites, eh bien, il l'a roulé comme s'il venait finalement de se faire décapiter. Et moi, je dis, ben, ils sont républicains, mais ils sont républicains pendant 1793. Ils sont républicains pendant la terreur. Mmh. Ils sont républicains pendant Robespierre. Et moi, j'aime dire de la gauche radicale, cette fois-là, là, je distingue ça de l'ultra-gauche qui, elle pratique la violence, mais la gauche radicale n'aime pas la Révolution française malgré 93, mais à cause de 93. Pas malgré la terreur, mais à cause de la terreur. Puis on voit dans la députation française aujourd'hui, c'est assez fascinant, des gens qui se revendiquent de Robespierre, qui revendiquent la légitimité de la terreur, qui chantent les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, c'était une insurrection paysanne de gens qui ne voulaient pas de la Révolution française. Ils disaient, on veut conserver notre roi et notre religion, puis penser ce qu'on veut de ça. Mais ils disaient, on ne veut pas être embarqué dans votre affaire. Et on a, pour les forcer à marcher au rythme du progrès, ils ont été massacrés parce que certains considèrent comme un des premiers génocides des temps modernes. Bon. Ben, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une révolte populiste avant l'heure. Eh bien, on trouve des gens pour célébrer ces massacres. Donc, c'est assez parti du rapport de la France à la violence. Mmh. Et quand Badinter dit qu'aujourd'hui, il faudrait condamner en toutes circonstances, recréer un tabou autour de la violence, il a évidemment raison, mais je note que ça vient pas de la grande méchante droite ou de l'extrême droite, la violence en ce moment. C'est de gauche exclusivement.
Oui, et puis d'ailleurs, lui, c'est un homme de gauche. Badinter est un homme de gauche, puis qui critique l'ultra-gauche qui s'en prend aussi à Mélenchon et tout ça. Écoute, je veux t'entendre, je veux que tu réagisses à cette entrevue que j'ai trouvée passionnante dans le Figaro, journal où tu collabores. Entrevue avec Jean-Louis Bourlange, qui est président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Tu as probablement lu cette entrevue-là. Ouais. Et je vais lire l'extrait. « Nous vivons une véritable crise de la décision publique portée par un hyper-individualisme ravageur. Cette crise se nourrit de deux ingrédients principaux, une fragmentation du corps social exacerbée par une mise en réseau agressive de toutes les attentes qui interdisent le compromis et un climat délétère d'insoumission qui se traduit par une délégitimation générale des autorités institutionnelles. » Donc, d'un côté, tu as des gens qui refusent tout compromis. Puis dès que tu déposes un budget, on l'a vu cette semaine au Québec, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget pour moi, pour ma situation à moi, on oublie totalement l'intérêt général, chacun pense à son intérêt personnel, et aussi, ben, on ne respecte plus l'autorité, donc un climat d'insoumission. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que c'est une bonne analyse, mais qui a une part d'ombre. C'est-à-dire, je pense qu'il a raison, il y a une fragmentation du corps social, les gens, je dis souvent de manière un peu imagée, les gens ne savent non seulement ils savent plus ce qui les rassemble, mais ils savent même plus ce qui les divise. C'est-à-dire que les fractures, le propre du politique, c'est de surmonter des fractures, il y en a tellement qu'on n'est plus capable de savoir quels sont les principaux clivages dans nos sociétés. Bon. Ensuite, oui, il y a une crise de décision politique, il n'y a pas de doute là-dessus, mais je te dirais que c'est l'individualisme, nous semble un redoute, mais tout ça, c'est aussi le fruit des autorités présentes qui nous ont conduits là. Je m'explique. En France, par exemple, tu as 45% des électeurs qui ont voté pour ce que les élites appellent les extrêmes. Puis des extrêmes anti-républicains. Mais quand tu décides, donc, soit la France insoumise, soit Zemmour, soit Marine Le Pen, mais quand les élites considèrent que près de la moitié d'un peuple est factieux, autrement dit, la moitié du peuple français serait dangereux pour la République française, eh bien, on cultive pas le sentiment démocratique, puis on crée un sentiment d'opposition radicale entre le peuple et les élites. Quand la démocratie, ça doit être le choix de plusieurs options. Si on n'a pas le choix de plusieurs options, c'est-à-dire gauche, droite, centre, socialiste, libéraliste, quand on n'a plus le choix de plusieurs options, est-ce qu'on a comme choix simplement entre le pouvoir légitime et de l'autre côté les extrêmes ou l'opposition, l'opposition radicale, eh bien, où tu crées une situation qui devient ingérable parce que tu n'as pas le choix de deux options, tu as le choix entre le sommet ou la base. Puis quand, en plus, t'es dans une société qui a multiplié pendant des décennies les droits individuels au point que les droits individuels deviennent la matrice d'interprétation de toute la réalité. Donc, évidemment que c'est important les droits individuels. Mais quand ils écrasent tout le reste, Et bien là, on se surprend, on ne soit plus capable de décider. J'ai beaucoup d'estime pour Jean-Louis Bourlange. Je pense que c'est un homme politique de qualité. Je ne serais pas de ta tendance juste en France. Je le trouve trop européiste, mais c'est un homme de qualité. Mais ce qu'il devrait voir, c'est que le système qu'il a embrassé produit des conséquences dont il se désole. Ça ne veut pas dire qu'il a tort de se désoler des conséquences. Ça veut dire qu'il aurait intérêt à réfléchir aussi à ce qui a engendré cette situation.
Regarde, un exemple, là, c'est du Québec. Lorsqu'on dit qu'on a perdu le sens de d'être ensemble, de l'unité, chacun y va, là, c'est qu'est-ce qu'il y a pour moi? Écoute, il y a un texte dans la presse où on dit que les gymnases sont anxiogènes et insécures pour les queer et les trans. Et là, on a l'ouverture du premier gym pour queer seulement à Verdun. Les queer vont avoir leur propre gym, et il y a des gyms pour femmes, et moi je dis, ben, pourquoi pas les personnes qui souffrent d'embonpoint, les machines ne sont pas faites pour elles, donc on pourrait avoir des gyms pour les gros. C'est rendu là, là. On est là.
Non, mais ça, c'est ma raison, c'est une fragmentation de la société infinie. Chacun revendique une identité absolument originale, et dès lors que la société ne se plie pas dans le moindre détail aux revendications de cette identité qui se veut originale, on accuse la société d'être oppressive et de multiplier les agressions contre son petit moi. Ça, on le voit. Donc, ce qui fait qu'on veut un safe space, un environnement où je ne verrai que mon double, un environnement qui sera entouré de miroirs, où je ne verrai que le reflet de moi-même. Donc, ben, c'est un environnement seulement pour les filles, bon, pour les, dans un cas, on va nous dire pour les racisés, pour les autres, pour mais les oui. queer, pour d'autres, pour nous dire les femmes entre 43 et 52 ans, puis après ça, oui. pour les gros, puis après ça, pour les un petit peu gros, mais pas complètement gros, puis ensuite, pour les ex, on fait la liste, là, les ex-gros, puis les ex-futurs gros, en tout cas.
Les nains, les machines dans les gyms sont pas faites pour les nains.
Les gens de petite taille, qui sont par ailleurs grands si on les voit à l'envers. Donc, autrement dit, il y a cette espèce de besoin de se tenir qu'avec des doubles de soi-même. Ça fait une société qui a peur de l'altérité, qui a peur du risque, qui a peur de l'aventure, qui a peur de où chacun est enfermé en lui-même et veut transformer le droit d'être enfermé en lui-même en droit fondamental protégé par l'ensemble de la société. Moi, je pense que c'est ce que tu décris là, c'est un excellent exemple de décomposition accélérée du monde occidental.
Il y a quelqu'un qui me posait comme question rapidement en terminant. Est-ce que des fois tu as l'angoisse de la page blanche quand tu écris des chroniques? Est-ce que tu manques de sujets? Puis je partais arrêter. Ils disaient les woke, on manquera jamais de sujets.
Ils sont une source inépuisable d'inspiration. On a un moment de doute, il suffit de regarder ce qu'ils font, puis parce qu'on est parti pour l'autre temps.
Merci Mathieu, à demain, bonne journée. Bye
bye. Bye.